toutes. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup de choses de ce que je vais dire ce matin. Jean-Haut a dit l'essentiel. Maintenant, ce que je vais dire, ben, c'est des choses que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors tout d'abord, ben, je vous salue, hein, et ce matin, si vous le permettez, j'aimerais parler un peu de nous, frères et sœurs, de nous chrétiens. Alors, c'est vrai qu'être chrétien, ce n'est pas rien. C'est tout à la fois une situation merveilleuse et passionnante, mais aussi, ça peut être terriblement compliqué d'être chrétien. C'est merveilleux parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons une relation exceptionnelle et particulière avec le Créateur de l'univers. Ça, c'est merveilleux. Mais compliqué parce que nous avons besoin de bien comprendre ce que Dieu attend de nous en lisant son livre de révélation qui est la Bible. Et des fois, ben, je dois avouer que c'est pas facile. Si vous arrivez à tout comprendre, moi je comprends pas tout le temps. Par exemple, et c'est le thème que je vous propose ce matin, que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux Galates en leur disant, Galates 5,16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Est-ce que nous saisissons bien ce que Paul veut dire? Et je vous propose donc ce matin de réfléchir ensemble sur cette injonction de Paul à l'église de Galatie. Alors, la parole de Dieu, la Bible, elle a pour but principal celui de nous conduire dans la vérité. C'est ce qu'a dit Jean-Haut ce matin. Jésus, s'adressant au Père, dit, Jean 17:17, « La vérité, Père, c'est ta parole. » Voilà, on ne peut pas être plus clair, plus simple. « La vérité, Père, c'est ta parole. » Le roi David, qui en était personnellement et pleinement convaincu, au plus profond de son cœur, a écrit ceci, psaume 25, versets 4 et 5, « Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive, dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. » Un beau texte. Non seulement la Bible, inspirée par le Saint-Esprit, nous enseigne la vérité, mais elle corrige aussi nos erreurs, nos fausses croyances, qui sont parfois tenaces, que nous traînons bien souvent depuis l'enfance et auxquelles nous nous accrochons, comme la bernicle, hein, vous savez, le coquillage qui s'accroche au rocher et qui ne veut pas le lâcher, et qui finissent par handicaper notre vie chrétienne. On a tous des fausses croyances. Lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Galatie, l'apôtre Paul est obligé de rappeler des vérités simples, de base, qu'ils n'ont peut-être pas bien saisies, pas bien compris, et qui les éloignent de l'évangile du Christ. Voilà ce qu'il dit pour commencer son épître aux Galates, Galates 1, verset 6. Il dit « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre évangile. » Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Non, il n'en existe pas d'autre, il n'y en a qu'un. Mais pourquoi vous allez vers d'autres évangiles et vous vous créez d'autres croyances? Vous le voyez, frères et sœurs, comme les Galates, nous pouvons, par nos croyances, nos connaissances erronées, bien souvent, sincères, parce que des fois, on se trompe pas comme ça pour le plaisir, facilement dévier de la vérité biblique et suivre un autre évangile que celui du Christ. Alors, en rappelant quelques vérités de base, c'est aussi à nous que va s'adresser ce matin l'apôtre Paul. Tout au long de son épître, Paul rappelle que tout comme Jésus-Christ est le personnage central de la justification, le Saint-Esprit est celui de la sanctification. Que personne ne peut se sauver lui-même, pas plus que personne ne peut se sanctifier seul. C'est impossible, par lui-même. Il rappelle ainsi la belle phrase de Jésus, Jean 15,5, « Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sans Dieu, on ne peut rien faire. Paul rappelle aussi aux Galates deux données spirituelles opposées qu'il faut parfaitement maîtriser, connaître la loi et la grâce. La loi, ce sont les saintes normes que Dieu a révélées aux hommes par Moïse. Ah, vous connaissez la loi. La grâce, c'est le don gratuit du salut offert aux hommes par le sacrifice de Jésus. Alors, quelle relation peut-il y avoir entre la loi et la grâce ? Vous savez, on entend souvent dire aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si nous partons du postulat de base, l'homme pécheur est spirituellement perdu. À quoi sert la loi ? À quoi ça sert ? Premièrement, par la loi, Dieu y montre sa sainteté absolue et la perfection de ses normes. La loi, elle est sainte et parfaite. Romains 7, 12, la loi est sainte, dit Paul, et le commandement est saint, juste et bon. Voilà. Deuxièmement, par la loi, la loi montre à l'homme pécheur et imparfait que ses normes saintes sont hors de sa portée. Il ne peut les atteindre car elles sont inaccessibles. Les lois, on ne peut pas par nous-mêmes les respecter. Alors pourquoi Dieu les a créées ? Pour montrer qu'on ne pouvait pas les respecter. Romains 7, 14, « Mais moi, dit encore Paul, je ne suis qu'un homme vendu au péché. » Voilà, je suis imparfait. Je ne peux pas appliquer la loi. Et troisièmement, l'homme ne peut donc se sauver en appliquant la loi. Dieu le savait très bien en créant la loi. Il voulait simplement que l'homme en prenne conscience et se dise « j'arrive pas à appliquer la loi, j'y arrive pas, je peux pas ». La loi devait être un pédagogue, c'est-à-dire un maître ou un guide pour nous amener à nous dire « j'ai besoin d'un sauveur, j'y arrive pas tout seul, donc j'ai besoin d'un sauveur ». Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors vous le voyez, la loi doit nous amener à Jésus-Christ. On ne peut pas plaire à Dieu en essayant de respecter la loi. Ça ne sert à rien. Tous ceux qui veulent respecter la loi, qui veulent essayer de se battre pour respecter la loi, ça ne sert à rien. On plaît à Dieu en passant uniquement par Jésus-Christ. Alors vous le savez toutes et tous, la grâce est un cadeau hors de prix, qu'aucun être humain ne peut s'offrir avec ses propres deniers. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire vous et moi, qu'il a donné son Fils unique pour qu'il meure sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est toujours bien de rappeler vraiment la grâce que nous a accordée Jésus-Christ. En mourant sur la croix par obéissance à son Père, Jésus a témoigné à Dieu son amour sans limite. En s'offrant comme victime expiatoire par amour pour l'humanité perdue, Jésus a aimé l'homme bien plus qu'il s'est aimé lui-même, bien plus que sa propre vie. Et par cet amour inconditionnel, Jésus a parfaitement accompli les deux premiers commandements qui sont le fondement même de la loi. Le premier, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. » Et puis le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et voilà pourquoi Jésus, il a pu dire sur la croix, « Mais tout est accompli, parce qu'il venait pour nous d'accomplir la loi, en respectant ces deux commandements que nous, on n'arrive pas à appliquer. » Romains 13, versets 8 à 10, « Celui qui aime les autres a accompli la loi. » Eh bien, Jésus, en mourant sur la croix, il a accompli la loi. Frères et sœurs, il nous est impossible d'aimer comme la loi le demande. On n'y arrive pas. Tous nos efforts pour aimer sont vains. C'est en s'attachant à Christ, dans une relation personnelle, profonde, en étant unis à lui, que nous pouvons accomplir la loi, l'amour du Christ. Alors, la loi, elle a été détournée par la chair. Elle a été détournée par le moi. C'est ce que j'appelle le putsch du moi, du moi MOI. la grâce, l'amour du Christ, ça ravit l'esprit humain. On est content quand on entend la grâce. Mais ce qui désole la nature charnelle, pécheresse, eh ben, c'est la grâce. Parce que on est dirigé par le moi. Et le moi, ça te dérange qu'il y ait la grâce. Ça te dérange profondément. En effet, le moi, l'ego, n'accepte nullement le cadeau offert par Jésus-Christ. Dans chaque homme, dans chaque femme, le moi, il refuse le cadeau qui est offert par Jésus-Christ. Elle veut mériter son salut. L'ego, la chair, elle veut mériter son salut. Elle veut que ça lui coûte. Le moi roi n'est pas satisfait par la grâce, ça ne lui plaît pas. Le moi, c'est le principe psychologique, stratégique qui dirige tout être humain dans ses actes, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses émotions. Et le moi, il est dirigé par le péché, et en particulier l'égocentrisme et l'orgueil. Il s'oppose donc à Dieu en toute chose, le moi. Pour se sauver, l'être humain dirigé par le moi va devoir aménager la loi en diminuant l'exigence que lui impose la loi. Pour parvenir à ses fins, ainsi, elle devient abordable, la loi. Si on la diminue, ben on peut l'accomplir. Alors, ça plaît à tous les religieux du monde. Moi, j'ai eu l'occasion de témoigner à deux personnes de la grâce du Christ, et les deux m'ont répondu avec leur moi. C'est-à-dire, le premier m'a répondu « Moi, personnellement, je dois encore faire de gros efforts, je ne suis pas assez bien pour plaire à Dieu. » Voilà. Et il ne voulait pas. Il m'a dit, moi, c'est vraiment, je veux faire des efforts pour plaire à Dieu. Et puis le deuxième, il m'a dit, c'est trop simple, la grâce. Tu comprends, si vraiment c'était aussi simple que ça, tout le monde viendrait à Jésus-Christ et serait sauvé. Notre moi, même dans notre nature charnelle crucifiée de chrétien né de nouveau, va constamment s'opposer au plan de Dieu, à sa volonté, et va toujours vouloir faire à la place de Dieu, que ce soit dans la justification ou dans la sanctification. Voilà, il va toujours vouloir se battre. Lorsque Paul dit, Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les désirs du moi », il parle bien sûr de la sanctification qui, nous l'avons dit, est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit. Alors, je vous donne un petit mot sur la sanctification quand même, pour dire qu'elle arrive juste après la justification. Est-ce que tout le monde est au clair sur ce qu'est la justification, sur ce qu'est la sanctification? Alors, je dis simplement quelques mots pour le rappeler. La justification, c'est l'acte par lequel le Dieu trois fois saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui, parce que Christ a porté son péché à la croix. Voilà, ça c'est la justification. La sanctification, c'est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit en nous, pour nous purifier, pour nous séparer du mal et nous rendre conformes à Christ et donc agréables à Dieu. Puisque le Saint-Esprit se révèle être le personnage central de la sanctification, je vous propose d'en faire un très très rapide portrait. Tout d'abord, et avant tout, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous êtes tous d'accord avec ça? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est à l'égal du Père et du Fils, c'est la troisième personne de la Trinité. Deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en nous. Est-ce qu'on est bien conscient qu'on a la puissance de Dieu en nous? Comme il parlait à ses disciples, après sa résurrection, Jésus leur dit, acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Cette puissance divine qui nous habite depuis la nouvelle naissance est seule capable de faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. » Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes, dit Jésus, eh bien devient possible pour Dieu. Voilà, est possible à Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est le seul. Nous, par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Troisièmement, alors cette expression elle n'est pas du tout biblique, mais j'aime bien l'employer, le Saint-Esprit est un gentleman. Il l'est parce que jamais l'Esprit de Dieu n'agit contre la volonté de celui qui l'accueille. Hein? Il ne va pas dire, ben tiens, par exemple, Michel, t'as pas envie ? Eh ben, tu vas faire ce que je vais te dire. Voilà. Ça, il ne fait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est, il le fait avec nous, avec notre accord. Le Saint-Esprit ne veut pas non plus travailler seul dans notre vie. La sanctification, c'est une collaboration harmonieuse entre le croyant et le Saint-Esprit. On travaille ensemble. Voilà, on ne travaille pas séparément. Cinquièmement, seul le Saint-Esprit peut nous donner l'assurance de nous conduire dans la volonté de Dieu. C'est le seul. Jean 14, 26, « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si on veut être dans la volonté de Dieu, on doit travailler avec le Saint-Esprit. Et puis enfin, seul le Saint-Esprit du Christ est capable de mater, d'écraser le moi de notre nature charnelle. On ne peut pas, nous, l'écraser nous-mêmes. Lorsque l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, de Galatie, pardon, Galates 5, 16, « Marchez selon l'Esprit », il exprime la mise en œuvre dans nos vies de tous les attributs du Saint-Esprit que nous venons de voir. Paul donne aux Galates un ordre empreint de bienveillance. Il leur dit « Marchez selon l'Esprit ». C'est presque un ordre, hein, « Marchez selon l'Esprit ». Il les guide dans la bonne direction et les pousse à s'engager. Et ils sont face à un choix crucial. En réalité, Paul sous-entend que si on veut grandir dans la sanctification, avoir une vie chrétienne victorieuse, débarrassée du moi, il n'y a pas d'autre solution que de marcher selon l'Esprit pour être débarrassé des désirs de la chair. Dans une autre version de la Bible, celle du Semeur, par exemple, on a une traduction plus explicite du verbe « marcher ». C'est bien d'avoir plusieurs versions. Galates 5,16, version Semeur, je vous dis ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de la nature pécheresse. Laissez-le faire, laissez-le. Paul exprime à la fois un ordre et un choix de vie. C'est notre choix. Alors, c'est quoi le choix de vie de la vie chrétienne ? Ben, frères, sœurs, face à cette injonction, à cet ordre de Paul, nous sommes devant un choix crucial de vie ce matin. D'un côté, nous comprenons bien qu'un chrétien qui ne se soumet pas à l'autorité, à l'action de l'Esprit-Saint dans sa vie, ben, il ne peut pas porter de fruits. C'est pas possible. D'un autre côté, il est constamment exposé dans sa vie au désir charnel de sa nature pécheresse, parce qu'elle est toujours là, et elle vient toujours nous rappeler qu'elle existe, et puis elle nous donne des désirs que nous, on ne veut pas forcément. Ce chrétien, eh bien, quand il est face à ces deux forces, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ce chrétien ressemble en tout point au chrétien décrit par Paul en 1 Corinthiens 3. Et ça, je vous invite à le lire chez vous. Mais je veux simplement vous résumer ce que disait Paul. Celle ou celui qui a bâti sa vie sur le fondement qu'est Jésus-Christ, il est sauvé. C'est-à-dire, si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous, pour vos péchés, vous êtes sauvé. Voilà, on ne revient pas là-dessus, vous êtes sauvé. Mais, comme il n'a pas collaboré avec l'Esprit du Christ pour construire sa vie chrétienne sur ce fondement, eh bien, lorsque le feu du jugement final de Dieu passera sa vie au crible, il ne restera rien. Sinon, les fondations. Et Paul conclut, ce chrétien sera certes sauvé, mais d'extrême justesse, un peu comme un homme qui réussit à échapper à un incendie. C'est une belle image. Celle ou celui qui ne choisit pas de travailler dans sa vie chrétienne en collaboration avec le Saint-Esprit, travaille en réalité pour la chair, contre le Saint-Esprit, contre Dieu. Depuis toujours, Dieu met son peuple devant un choix de vie, tout le temps. Hein. Nous, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, on est toujours devant un choix. Il faut toujours faire des choix dans la vie. Deutéronome 30, versets 15 et 16, « Vois mon peuple, je place aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, ce qui est rappelé Jean-Haut, et d'un autre côté, la mort et le malheur. ce que je vous commande aujourd'hui, eh bien, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de suivre le chemin qu'il te trace et de lui obéir. Voilà, c'est tout ce qui demande de Dieu. Vous le voyez, frères et sœurs, on ne peut pas rester assis entre deux chaises. Ce n'est pas possible. C'est une position très inconfortable. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, est encore plus direct, lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Celui qui ne suit pas vraiment le chemin que je lui trace, eh bien, il lutte contre moi. Frères, sœurs, voilà qui est clairement dit, « Celle ou celui qui ne choisit pas de marcher par l'esprit ou selon l'esprit, eh bien, il marche par la chair. » Et c'est un chrétien charnel qui marche et vient contre Dieu. Dans le psaume 119, au verset 33 à 38, le psalmiste, il exprime un modèle de choix et d'engagement dont nous pourrions nous-mêmes nous inspirer. Et je vais le lire ce matin, et pensez vraiment à ce texte pour vous. « Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances, et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement, et j'obéirai à ta loi, je la suivrai de tout mon cœur. » Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans tes voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te révèrent. Vous voyez, vous avez sans doute remarqué aussi que si le psalmiste est à l'initiative de la demande, ce n'est jamais lui qui agit. Il ne dit pas « je ferai ça, je ferai comme ça, je vais faire ça ». Il dit « Seigneur, mais emmène-moi sur le chemin, c'est toi ». Il ne travaille pas par ses propres forces, il demande à Dieu et fait ce que Dieu lui montre. Ce qui anime le psalmiste, ce n'est pas une énergie de faire les choses, un désir ardent de plaire à Dieu, une forte volonté, mais au contraire un cœur ouvert, offert, désireux d'appartenir à Dieu, un cœur brûlant, de l'envie d'être sur ses sentiers, d'être modelé à sa ressemblance. Plutôt que de faire pour Dieu, le psalmiste veut être tout entier à Dieu, le laisser guider chaque pas de son existence, comme Jérémie qui disait, par exemple, Jérémie 10, 23, « Je le sais, ô Éternel, le destin de l'homme n'est pas en son pouvoir, et que celui qui marche n'est pas maître de ses pas. » C'est Dieu qui est maître de ses pas. Vous l'avez bien compris, à travers ces deux traductions de Galates 5, 16, celle ou celui qui veut marcher selon l'Esprit doit laisser l'Esprit prendre les commandes de sa vie. Alors, c'est quoi laisser prendre les commandes de sa vie? Alors, je vais vous lever un petit pan de ma vie. J'avais environ 33-34 ans et j'étais à un tournant de mon existence. Et j'ai décidé de partir un mois avec un ami visiter l'Équateur. C'est d'ailleurs là-haut que je me suis converti. Nous avons décidé de faire une excursion de 3 jours dans la jungle équatorienne. C'est une jungle où vivaient, vous savez, ils vivent plus maintenant, heureusement, c'était les célèbres Indiens Jivaro, vous savez, réducteurs de tête. Bon, mais c'est une jungle extrêmement dangereuse quand on ne la connaît pas. Hein. Donc pour s'enfoncer dans la jungle équatorienne et en revenir sain et sauf, croyez-moi, il vaut mieux prendre un guide indien sérieux, fiable et homologué. Hein. Parce que des fois, si on y va tout seul, on a de fortes chances de parvenir. Et si on prend un guide qui s'enfuit et puis qui vous laisse dans la jungle, c'est pas mieux. Et vous allez comprendre que je reviens au thème de ce matin et que je ne cherche pas à vous raconter ma vie. Ce guide nous a amenés dans des endroits de rêve. Ça, j'ai vu des choses que, franchement, j'ai jamais vues ailleurs. Il nous a fait vivre une aventure unique en nous ouvrant des portes dans des villages, par exemple des villages indiens. Dans d'autres, il nous a dit « il vaut mieux pas y aller parce que là, c'est dangereux ». Vous voyez, il valait mieux éviter. Nous avons pris certains cours d'eau, il nous en a interdit d'autres, qui se terminaient par de grandes chutes, d'eau terriblement dangereuse, et là, on aurait pu y laisser notre vie. Nous avons pu manger certains fruits, pas d'autres, parce qu'il y avait des fruits qui étaient aussi empoisonnés, dangereux. Nous avons remis nos vies entre les mains de ce guide. Nous lui avons fait confiance. Il nous a protégés des dangers. Il nous a emmenés là où il fallait. Pourtant, nous n'avons jamais renoncé à notre liberté. Hein, moi, je portais mon sac, j'allais, l'île disait non, on va pas là, là, d'accord, mais etc. Mais on était libre. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil, frères et sœurs. Il est notre guide spirituel. C'est lui qui décide de tout notre bien et nous agissons sous sa direction. Frères et sœurs, marcher selon l'Esprit, c'est, vous l'avez compris, prendre le Saint-Esprit pour guide dans la jungle de notre existence. Marcher selon l'Esprit, c'est donc lui donner autorité sur notre vie. Seigneur, sois le maître de ma vie. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez dit, Seigneur, sois le maître de ma vie? Mais pas seulement, comme l'a dit Jean-Haut ce matin, hein, pas seulement l'avoir fait, mais le réaliser. Seigneur, tu m'emmènes là où toi tu as envie de m'emmener. Et est-ce que vous le renouvelez chaque jour et, ou régulièrement en disant, voilà Seigneur, j'aimerais bien que ma relation avec toi, ce soit sous ta dépendance. Acceptez qu'il guide mes pas. Seigneur, mène-moi où tu veux que j'aille, dans ce qui est le meilleur pour moi, comme l'a exprimé Jésus. Non pas, Père, ce que je veux, mais ce que toi, tu as décidé pour moi. Et puis, c'est aussi renoncer à servir la chair, le moi. Je renonce à mes mauvais désirs charnels. Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Je veux renoncer à ces désirs. Notez une chose importante, Paul ne dit pas « luttez contre votre nature charnelle ». Il ne dit pas « allez-y, faites tous vos efforts pour lutter contre les mauvais désirs ». Vous savez, on entend dire souvent « redresse-toi, je me bats contre ma nature colérique, je me bats ». Mais se battre, c'est utiliser la chair pour lutter contre la chair. Hein? Non, Paul ne dit pas ça. Paul dit clairement, si vous marchez selon l'Esprit, alors seulement vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, il faut marcher par l'Esprit pour lutter contre la chair, et non pas nous-mêmes contre la chair. C'est un engagement total et permanent avec Jésus-Christ. Ce n'est ni à mi-temps, ni à quart-temps. Si Jésus est présent chaque jour jusqu'à la fin du monde, est-ce que je le suis moi-même avec Christ? C'est vrai, Jésus dit, je suis présent avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais moi, est-ce que je suis là? Je vis Dieu, je pense Dieu, je parle à Dieu dans mon cœur. Et le roi David, lui, il avouait, dans le psaume 86, verset 3, essayez de noter ce que faisait David, « Je crie à toi tout le jour, tout le temps. Je te parle sans arrêt. » Psaume 16, verset 8, oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Dieu, il est présent même la nuit, dans ses rêves, dans ses pensées, tout le temps. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Est-ce qu'on fait ça, nous? Ah, moi, des fois, non. Frères, sœurs, si vous trouvez un emploi dans une entreprise anglaise, ben, vous allez apprendre à parler l'anglais. Au moins pour pouvoir communiquer au quotidien. Si nous voulons marcher selon l'Esprit, il faut se nourrir de l'Esprit. C'est nécessaire. Matthieu 4, 4, Jésus dit, « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi des paroles que Dieu prononce. » Est-ce qu'on lit régulièrement la Bible? Est-ce qu'on s'imprègne d'Esprit? Est-ce qu'on s'imprègne de spirituel? L'action du Saint-Esprit, du Christ dans nos vies, est à rapporter à cette phrase de Paul, Galates 2:20, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit. Voilà, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans le monde, mais je vis pour Christ et par Christ. J'espère que vous l'avez compris, marcher selon l'Esprit est un juste équilibre entre la puissance de Dieu en nous et notre activité collaboratrice en duo avec le Saint-Esprit. Alors je voudrais citer deux comportements extrémistes de marcher selon l'Esprit. Il y a des choses, par exemple, que nous, on peut pratiquer et qui ne sont pas demandées par Dieu. C'est par exemple le quiétisme et le piétisme. Alors, le quiétisme, c'est un mouvement qui prend la parole de Paul vraiment au premier degré, au mot. à la lettre. Ce n'est plus moi qui vis, donc, moi je ne fais plus rien. C'est l'esprit qui fait tout, et l'être humain, il ne fait plus rien. Voilà, je suis spectateur passif de ce que Dieu fait dans ma vie. J'agis pas. Le piétisme, lui, au contraire, c'est le légalisme. Le croyant essaye de façon légaliste de faire par ses propres forces tout ce que le Seigneur commande dans la Bible. Voilà, le Seigneur me dit ça, je fais ça, j'essaye, je me bats, je fais tout le maximum, donc je ne laisse pas travailler l'esprit. L'esprit qui veut travailler, ben je lui dis, toi, mets-toi de côté, moi je bosse à ma vie avec Dieu, à ma sanctification. Plus un croyant fait d'efforts pour vivre selon les règles, les règlements, aussi nobles soient-ils, plus il nuit à l'œuvre du Saint-Esprit. Hein, par exemple, on peut dire, ben voilà, je vais prier pendant 3 heures, voilà, comme ça je vais plaire à Dieu. Je vais lire la Bible, je vais lire 15 chapitres de Bible par jour. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Marcher selon l'esprit, marcher selon la chair au quotidien. Alors le Saint-Esprit, lorsqu'on s'appuie sur lui, nous accorde à la fois le fruit de l'esprit et tous les dons nécessaires pour accomplir avec l'esprit le plan de purification et de reconstruction que Dieu, dans sa volonté, a tracé pour nous. Le fruit de l'esprit, c'est selon Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dans tout ce que nous faisons, disons, pensons, lors de notre marche selon l'Esprit, le Saint-Esprit, lui, il nous inonde de son fruit spirituel. Quand on marche avec lui, voilà, il nous inonde de tous ses fruits. Cela ne vient pas de nous, mais de l'Esprit. Nous qui sommes incapables de correctement aimer, il nous aide à œuvrer avec et par l'amour du Christ. Voilà. Vous savez, des fois, moi, j'entends Wardia qui me dit, à mon travail, ben, on dit, ah ouais, ah, qu'est-ce que t'es bien, qu'est-ce que t'es comme ci, qu'est-ce que t'es comme ça. J'ai entendu Jean-Claude Marianos me dire ça. Moi aussi, j'ai entendu des gens qui me disent, alors, je me dis, mais c'est pas moi. c'est pas de moi dont ils parlent. Mais les gens nous voient parce que le Saint-Esprit nous inonde. Et ça vient pas de nous. Il nous donne de servir Dieu avec joie. Ben oui, il nous donne sa joie. Il nous remplit de sa paix, la paix de Dieu qui inonde celui qui marche dans sa volonté. Comme nous comptons sur lui avec assurance, nous sommes remplis de foi et de patience. Il nous communique son caractère, à savoir la bonté, la bienveillance et la douceur. Et dans ces conditions, pourquoi s'affoler? Pourquoi s'alarmer? Pourquoi se stresser? Pourquoi s'inquiéter et perdre son sang-froid? Le Saint-Esprit nous accorde la maîtrise de nos émotions. Par contre, lorsque nous marchons selon la chair, en s'appuyant sur le « moi » et ses désirs, c'est-à-dire sur ce qu'il y a de plus charnel en nous, eh bien l'ego va nous inonder des fruits de la chair, décrits dans Galates 5, 19. Hein, ce sont les pensées impures, conduisant à des comportements déréglés. Vous savez, des fois, on a du mal à comprendre qu'un chrétien engagé puisse être abuseur ou pédophile. Mais sa chair le pousse le bombarde de pensées impures. Comme il n'avance pas selon l'esprit, eh ben il ne possède pas la maîtrise de soi. Il lui arrive de passer à l'acte alors qu'il aime pourtant Dieu. Ce sont encore les querelles, vous savez, même dans les églises, hein, on a des querelles, on a des jalousies, on a des animosités, des disputes, des divisions. Des fois, il y a des sectes hein, où on se sépare. L'envie, l'ivrognerie, etc., ça, ce sont les œuvres de la chair. Le chrétien qui marche selon la chair est souvent aussi triste. Il est triste parce qu'il attriste le Saint-Esprit. Comme il fonctionne selon la chair, ben le Saint-Esprit, lui, est attristé. Ephésiens 4:30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Ça le rend triste. Et quand le Saint-Esprit est triste en nous, eh ben ça nous attriste. Et des fois, on est des chrétiens tristes. Tout ce que nous essayons de faire pour Dieu sans l'aide du Saint-Esprit agace profondément le moi qui râle, qui juge, qui souffre, qui culpabilise. Hein, vous savez, des fois, quand on marche par la chaire, on dit « Oh, c'est trop dur, la vie chrétienne, hein, j'en peux plus. Les autres m'aident pas, ils n'en font pas assez, ils sont pas, hein, ils sont pas sympas, etc. » Mais ça, c'est la chaire qui nous fait parler. Je vais terminer ce message donc par les deux premiers versets du beau psaume 127 de Salomon. Il y a, je crois qu'il y a, un psaume, je crois, de Salomon dans la Bible, j'en suis pas sûr, mais c'est un très beau. Et je vous le projette tel que Salomon l'a écrit, et je vous le dis à la lumière de Galates 5,16. Alors ce que vous avez là, c'est ce que Salomon a écrit. Psaume 127, versets 1 et 2. Si l'Éternel, par le Saint-Esprit, ne bâtit pas la maison de ta vie, toi qui veux la construire seul, par tes propres forces, tu travailles en vain. Tu travailles pour rien, pour le néant. Si ce n'est pas l'Éternel par le Saint-Esprit qui protège la ville de ta vie, de ta famille, de ton couple, c'est en vain que tu te fatigues à veiller. Oui, ça ne sert à rien de faire des efforts sans Dieu, en te levant de très bonne heure et en te couchant tard. Tu te donnes beaucoup de peine, beaucoup de mal, tu fais beaucoup d'efforts, tu t'épuises dans le travail. Mais sache-le, Dieu en donne autant à celles et ceux qui marchent selon le Saint-Esprit pendant qu'ils dorment et se reposent. C'est beau. Ah, ça ne nous appelle pas non plus à être feignants, à dire « Oula, moi je ne fais plus rien ». Peut-être, frères et sœurs, vous laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Peut-être ne saviez-vous pas que l'on pouvait marcher par l'Esprit. Même lorsqu'un chrétien marche selon l'Esprit, ça ne fait pas de lui un homme parfait, puisqu'il vit dans un corps imparfait. Mais ça fait de lui un chrétien qui marche selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. À travers cette injonction de Paul aux Galates, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », j'invite chacun de vous, comme je le fais pour moi-même, à discerner sur quel chemin il marche ce matin et à s'engager résolument dans celui que nous propose le Saint-Esprit du Christ. J'aimerais simplement vous laisser, et je vous ai donné une feuille pour ça, cette semaine, deux versets du psaume 147 à méditer, hein, et vous pouvez le relire. Psaume 147, versets 10 et 11. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte aux yeux de l'Éternel. La force du guerrier, hein, comme celle du chrétien, n'est pas ce qui lui fait plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le révèrent, en ceux qui comptent sur son amour. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vais prendre un moment pour prier. Seigneur, à travers ce texte de Paul aux Galates, tu nous rappelles ce matin que le plus important, Seigneur, c'est de compter sur toi. C'est de t'offrir notre cœur et de nous laisser diriger par toi. Tous nos efforts, Seigneur, ne servent qu'à nuire au Saint-Esprit et à nous éloigner de toi. Vraiment, Seigneur, tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres les oreilles et l'intelligence pour nous montrer où nous devons aller, ce que nous devons faire, comment nous devons le faire. Et je te prie ce matin, Seigneur, pour tous ceux qui veulent s'engager avec toi, que tu les diriges dans la bonne direction et selon la volonté de Dieu. Que la gloire t'appartienne, Seigneur. Amen.